public, l'art de lire, avec Jean Starobinski. J'ai le grand honneur aujourd'hui d'accueillir Jean Starobinski et d'être accueilli chez lui à Genève pour cette émission. C'est d'abord l'occasion d'exprimer ma gratitude. Je me souviens de mon éblouissement quand, étudiant en lettres, j'ai lu Jean-Jacques Rousseau « La transparence et l'obstacle ». Ce fut comme une révélation. Rousseau me devenait clair, mais aussi le monde moderne qu'il avait si puissamment contribué par sa critique même à façonner. La dette que j'ai contractée alors envers Starobinski s'accroît ces jours-ci avec la parution d'un nouveau livre sur Rousseau, « Accuser et séduire ». 1958, 2012. Entre ces deux dates, il y a eu, par exemple, Largesse, où il est aussi question de Rousseau, et Remède dans le mal. D'autres auteurs vous ont sollicité, Jean Starobinski, mais Rousseau vous accompagne depuis toujours. D'où vient cette fidélité?
Peut-être encore d'un souvenir, car lorsque la littérature a commencé à compter pour moi, mon père était abonné à la Nouvelle Revue Française. Il arrivait beaucoup de revues dans notre boîte aux lettres. Je me faufilais quelquefois à l'université. J'étais encore collégien. Et c'était pour écouter le cours de Marcel Raymond. Le cours était sur Rousseau. Et je me rappelle la manière dont Marcel Raymond rendait présent Rousseau, tout simplement d'abord en le lisant. Je me souviens tout particulièrement d'une page où Rousseau raconte ses amours pour Madame Doudetot. La lecture de Raymond, patiente, tranquille, bien timbré, apportait l'ensemble de l'image de cette passion. Et ensuite venait le commentaire, quelquefois long, dans le style de Marcel Raymond, mais toujours respectueux, et très souvent, à la fin même du commentaire, c'est le texte qui revenait. Cela se passait dans les années 30 et c'était mes premiers contacts avec ce bâtiment de l'université où presque en même temps j'allais, sans avoir encore beaucoup hanté ces lieux, écouter ce qu'annonçait le journal, la soutenance de thèse d'Albert Béguin de Baudelaire au surréalisme. Et le dialogue s'engageait entre le candidat et ses jurés, ses membres du jury, l'un d'eux étant Marcel Raymond. En même temps que l'âme romantique et le rêve de Béguin paraissait de Baudelaire au surréalisme de Béguin. Ainsi, ces deux maîtres de ce qu'on a appelé l'école de Genève nous parlait d'un passé, mais dont le présent de la littérature, avec le surréalisme étudié par Marcel Raymond, avec le romantisme allemand étudié par Béguin, était singulièrement insistant et présent. Donc vous le voyez que ce qui se perpétue pour moi maintenant, c'est quelque chose qui a germé dans les années 30, vers la fin des années 30, au point que Rousseau est maintenant un compagnon.
Et justement, c'est Rousseau votre compagnon. Vous l'avez choisi, d'une certaine manière, vous l'avez élu, plutôt peut-être que d'autres auteurs étudiés, actualisés par Raymond ou Albert Béguin. Et on peut s'interroger, en effet, sur ce très long compagnonnage. Alors, cela ne tient-il pas aussi à la place très singulière qu'occupe Rousseau dans la galaxie des grands auteurs, parce qu'un grand auteur, traditionnellement, nous donne à voir ce qu'il a de plus intelligent. Il élimine le reste, bien sûr, ce qui fait qu'il nous impressionne, qu'il nous intimide et que parfois il exerce sur nous une sorte de terreur. Or, Rousseau, qui est un génie de la philosophie, de la langue, de la littérature, ne produit jamais cet effet. Il expose ses faiblesses, ses ridicules, sa bêtise même. C'est un thème très important, la bêtise chez Rousseau. Il est trop timide pour les salons, il est trop empoté aussi pour être galant. Et est-ce que tout cela n'introduit pas entre lui et le lecteur un lien tout à fait singulier? C'est Jean-Jacques, c'est un auteur qu'on appelle par son prénom, avec qui on lit de manière singulière un lien fraternel.
Une séduction et séduction, un lien fraternel. Dans le cas de Marcel Raymond, il y avait cet intérêt pour la littérature contemporaine, et je peux dire que je lui étais fidèle aussi dans un autre sens. J'ai constamment prêté attention à ce que la poésie française apportait de nouveau, et quelquefois dans des circonstances très très pathétiques. Je me souviens de la présence de Pierre-Jean Jouve à Genève, à qui Pierre-Emmanuel venait rendre visite. L'amitié a été très rapide avec ces deux poètes, et très tôt cette attention à la poésie était un accès au moment même de l'expérience vécue de la France, de l'Europe, à ce moment même. Donc Rousseau, d'une certaine façon, devenait le compagnon de ces écrivains d'aujourd'hui, du moment même, qui œuvraient dans le domaine de la réflexion poétique. Et ceci se passait aussi avec Marcel Raymond pour participant, quand une revue a été fondée à Genève en 1942, autour de Pierre-Jean Jouve, mais où Marcel Raymond était lui aussi membre du jury, du comité, pardon, et à qui j'allais me joindre un peu plus tard. Mmh. C'est ainsi que, d'une part, Rousseau et bientôt aussi ses précurseurs, Montesquieu, me sont devenus familiers dans les premiers enseignements que j'ai donnés à l'Université de Genève, et d'autre part, la poésie contemporaine m'apparaissait peut-être par la médiation de Rousseau. Rousseau a été, dans ce cas, un grand médiateur, parce qu'il permettait une réflexion qui joignait toute une série de moments de la littérature française.
Alors, dans ce livre, Accuser et séduire, vous consacrez, Jean Starobinski, un chapitre à la devise de Rousseau. Et je voudrais que nous nous y arrêtions un instant parce que je crois qu'elle nous permet d'approfondir cette question justement de l'originalité de Rousseau et du lien particulier qu'un lecteur peut établir avec lui. Cette devise, je le rappelle, est « Vitam impendere vero » que je m'empresse de traduire. Il y a 15 jours, j'ai fait une émission où il a beaucoup été question d'hubris et des auditeurs m'ont reproché de n'avoir pas traduit le mot hubris. J'en profite pour dire que cela veut dire démesure. Et « Vitam impendere vero », c'est consacrer sa vie à la vérité et c'est tiré de Juvénal. Alors, quel est le sens de cette devise pour Rousseau, Jean Starobinski?
Le sens de cette devise, c'est un serment, c'est un engagement, l'engagement de s'attacher au vrai, c'est-à-dire à échapper à tout ce qui est fiction, parure, apparence trompeuse, et de ce fait, Rousseau s'inscrit parfaitement dans la lignée qui m'a tant intéressé des démasqueurs, des écrivains qui s'expriment d'abord de la manière la plus volontairement sincère, avec tout ce que cette volonté d'être sincère peut troubler d'ailleurs dans la relation à autrui, et en même temps il est celui qui combat le mensonge. Oui. Vitam impendere vero, c'est une promesse de s'attacher à tout moment à la vérité de soi, à la vérité de ce que l'on pense et au péril qu'il y a à s'attacher ainsi.
Oui, mais justement, il ne s'agit pas simplement d'une promesse d'écrivain. Je vais dire le vrai. Il s'agit d'une promesse qui engage l'existence, vitam impendere vero. Alors, en quoi la vie de Rousseau a-t-elle été modifiée par ce serment qu'il a fait, Jean Starobinski?
C'est une grande question. En fait, on a le sentiment qu'à tout moment, il y a une tentation de fuite ou de fiction pour l'être humain et que Rousseau s'interdit la fuite et la fiction. Et cependant, il va utiliser le rêve, le grand rêve du bonheur, qui n'est pas la vérité, pour l'employer, pour le mettre en œuvre dans le sens qu'il a choisi. La nouvelle Héloïse est une fiction, et en même temps, il s'y trouve constamment une vérité à défendre. Lorsqu'il s'agit du portrait de Julie, Rousseau proteste contre les fleurs qu'on ajoute à sa chevelure. C'est un mensonge, ce n'est pas vrai. Et à tout moment, dans la réflexion de Rousseau, dans l'imagination de Rousseau, il y a un rejet, un refus de ce qui trahirait une obligation à la vérité, un lien à la vérité.
Mais quand j'insiste sur le vitam impendere vero, c'est que je suis amené, en lisant Rousseau et en lisant votre commentaire, votre lecture de Rousseau, à penser à un cours que Michel Foucault a donné au Collège de France. C'est son dernier cours, et je crois le plus beau. Il s'intitule « Le courage de la vérité » et il est une réflexion sur la parésia. Le dire vrai, et notamment Diogène, personnage important pour Rousseau comme pour Diderot, dont nous en avons parlé tout à l'heure, Diogène et les cyniques, pour qui la manifestation du vrai ne s'inscrit pas seulement à travers une prise de parole, mais dans l'épaisseur même de l'existence. Et Foucault dit qu'au début, pour l'Occident, enfin pour les Grecs, la philosophie était indissociable d'une existence philosophique. Et l'Occident, dit-il, a tenu de plus en plus en lisière le problème de la vie dans son lien essentiel avec le dire vrai. Comme si la science se mettait à régner sur la vérité et comme si la pratique scientifique pouvait prétendre assurer à elle seule l'accès à la vérité. Or, il me semble que chez Rousseau, on a comme un retour de cette parésia, de ce dire vrai, indissociable d'une existence qui ne cesse de s'exposer elle-même aux conséquences du dire vrai. Et c'est peut-être aussi l'une des raisons de la tendresse que l'on peut éprouver pour lui, par-delà l'admiration envers le grand écrivain.
Oui, vous dites très bien ce qui s'accomplit chez Rousseau. Mais peut-être faut-il aussi remonter aux étapes antérieures. Aux étapes antérieures où Rousseau est hors de la vérité. Pourquoi ? Parce qu'il est captif de la fiction. Parce qu'il est captif du romanesque, des romans qu'a laissé sa mère et qu'il lit dans son enfance. Il y a donc un moment du roman, du romanesque, de la rêverie ambitieuse ou amoureuse, et puis vient le moment, peut-être sous le signe paternel, où c'est Plutarque et la vertu romaine, la vertu civique qui l'emporte sur la rêverie pastorale et sur la chimère amoureuse.
Mais il y a aussi cette exigence de vérité chez Rousseau le conduit à ne rien dissimuler, je le disais tout à l'heure, de ses faiblesses, de ses travers, de ses ridicules. C'est évidemment les confessions, la grande première fois des confessions. Et parmi les faiblesses de Rousseau, parmi les fautes qu'il se reproche, il y en a une sur laquelle vous revenez souvent, notamment dans votre dernier livre, et qui est, je crois, très très intéressante parce que elle peut aussi nous introduire au système de Rousseau, donc faire la jonction entre sa vérité toute subjective et sa réflexion politique, philosophique et métaphysique. C'est l'affaire dite du ruban volé et cette mauvaise honte qu'il a ressenti à ce moment-là. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, Jean Stawinski?
Oui, dans les pages où Rousseau raconte l'histoire du roman volé, et il s'attarde sur quelque chose qui, dans sa conduite, lui apparaît comme une grande exception et qu'il doit justifier tout en s'accusant, tout en persévérant à s'accuser. Et c'est toute la bibliographie du mensonge qu'un annotateur patient peut trouver dans les pages de confession où Rousseau raconte l'épisode où il a volé le ruban d'une servante à Turin, et ce ruban disparu, on l'interroge. Et il déclare que c'est Marion, une pauvre servante, une pauvre fille, qui l'a volé. En fait, que s'est-il passé? Rousseau essaye de se justifier du vol qu'il a commis en déclarant qu'il avait l'idée de l'offrir à Marion, et il énumère tous les mouvements intérieurs qui ont été les siens et qui pourraient le justifier, le blanchir, ou d'une certaine façon l'excuser. Mais ce faisant, quand on regarde de près les pages où il en est question, on s'aperçoit que Rousseau déploie tout le savoir des casuistes qui ont parlé du vol et du mensonge. Ce qui fait que ce qui apparaît ici surtout et qui m'a beaucoup intéressé, c'est un Rousseau qui va au fond des choses. Un Rousseau qui, une fois une question survenue, travaille à la résoudre en faisant comparaître tous les arguments pour ou contre la thèse qu'il voudrait voir prévaloir, avec une impartialité qui s'autorise en quelque sorte d'un amour passionné de la vérité, mais qui en même temps tente à blanchir les méfaits de Jean-Jacques.
Blanchir ses méfaits, et en même temps il y a une insistance sur ce thème de la honte, puisqu'il écrit « Quand je la vis paraître, Marion donc, la cuisinière qui l'accuse, mon cœur fut déchiré, mais la présence de tant de monde fut plus forte que mon repentir, je craignais peu la punition, je ne craignais que la honte, mais je la craignais plus que la mort, plus que le crime, plus que tout au monde, l'invincible honte l'emporta sur tout, la honte seule fit mon impudence. » Et ce thème de la mauvaise honte, Jean Starobinski, vous l'explorez dans ce livre que j'ai cité tout à l'heure, Largesse, puisque oui. C'est un épisode des rêveries du promeneur solitaire. Rousseau est déjà un auteur reconnu. Il vit chez le marquis et la marquise d'Épinay. C'est la fête du maître de maison. Jeux, spectacles, feux d'artifice, rien ne manque. Les convives vont prendre l'air dans une avenue. On tenait, dit Rousseau, une espèce de foire. On dansait. Les messieurs daignèrent danser avec les paysannes, mais les dames gardèrent leur dignité. On vendait là des pains d'épices. Un jeune homme de la compagnie s'avisa d'en acheter pour les lancer l'un après l'autre au milieu de la foule. Et l'on prit tant de plaisir à voir tous ces manants se précipiter, se battre, se renverser pour en avoir, que tout le monde voulut se donner le même plaisir. Cela paraissait charmant à tout le monde, sauf à Rousseau, qui évidemment se sent très étranger à cette tradition de la largesse, tradition féodale, aristocratique s'il en est. Mais il fait de même, il fait comme les autres, par mauvaise honte. Et ce thème de la mauvaise honte se retrouve dans la nouvelle Héloïse, c'est Julie qui dit « Telle vaincrait les tentations qui succombent aux mauvais exemples, telle rougit d'être modeste et devient effrontée par honte, et cette mauvaise honte corrompt plus de cœurs honnêtes que les mauvaises inclinations. » Donc cette hantise, en quelque sorte, parcourt l'œuvre de Rousseau. Vous montrez dans « Accuser et séduire » qu'il n'est pas le premier à avoir analysé la mauvaise honte. On en trouve d'ailleurs un exemple dès Saint-Augustin, qui vole des poires avec des petits galopins, précisément pour ne pas avoir honte devant eux. Vous citez aussi Pierre Nicole, qui fait une description de cette mauvaise honte, et il me semble qu'elle est au cœur de la vie de Rousseau et de sa réflexion, justement, sur les dangers ou les méfaits de l'amour-propre. Jean Starobinski.
En même temps, Rousseau est attentif à tous les regards qui peuvent se porter sur lui et qui peuvent le suivre dans tous ses gestes, dans tous ses mouvements. Cette revendication de pureté d'âme, finalement, qu'il manifeste si souvent, se double chez lui d'une persistante hantise du regard hostile qui se dirige sur lui. Il y a un regard hostile qui traverse toute cette œuvre très singulière des dialogues de Rousseau, juge de Jean-Jacques.
Mais précisément, si l'on en vient maintenant à ce qu'il a appelé lui-même son triste et grand système, il montre que l'homme naturel, c'est l'homme qui est mu par l'amour de soi. c'est-à-dire l'amour de son propre bien-être, tempéré peut-être déjà par la pitié. Puis vient l'expulsion de ce paradis originel, l'homme de l'homme, l'homme qui se compare, l'homme qui est regardé, l'homme qui veut plaire, l'homme qui flatte, l'homme qui est sujet aussi, notamment à cette mauvaise honte. C'est une des modalités de l'existence de l'homme de l'homme. Et on a le sentiment que Rousseau, qui ne veut évidemment jamais revenir en arrière, hein, vers l'existence séparée de l'homme naturel, bâtit son système précisément pour conjurer les effets de l'amour-propre, de la mauvaise honte et de tout cela, en créant avec le contrat social et la volonté générale une sorte de moi commun. Et en envisageant, notamment dans la lettre sur les spectacles que vous analysez dans La transparence et l'obstacle, comme alternative au spectacle, la fête, oui, où chacun se regarde dans les autres. Mais précisément, en se regardant dans les autres, il s'oublie, il échappe à cette espèce de comparaison perpétuelle. Donc ce système ne naît-il pas chez Rousseau, justement, d'un effort pour échapper au tourment de l'amour-propre?
Oui, très exactement. Il y a une voie de salut qui est la reconnaissance. Cette notion qui joue un grand rôle dans la philosophie contemporaine, dans la philosophie post-romantique. Rousseau ne parle pas de reconnaissance, mais constamment, on sent bien que c'est la réciprocité des regards qui, pour lui, est la chose capitale. Et la fête, pour Rousseau, c'est l'avènement de la reconnaissance collective, de la reconnaissance de chacun par tous, de chacun par chacun d'abord, et finalement le moment fusionnel d'une joie qui ne durera peut-être pas, mais qui scelle quand même l'identité commune, la communauté.
Oui, bien justement. D'ailleurs, il dit dans la lettre sur les spectacles, « Faites que chacun se voit et s'aime dans les autres, afin que tous en soient mieux unis. » Son espoir ou son utopie va quand même au-delà de la reconnaissance. C'est une utopie, vous l'avez dit, fusionnelle.
Oui. Oui.
Donc, et évidemment, on est obligé aussi de la lire à la lumière des expériences du siècle. À la fin d'Accuser et séduire, Jean Starobinski, vous adressez à Rousseau et vous lui demandez de continuer à nous inquiéter. Mais je dois aussi poser cette question. N'y a-t-il pas chez Rousseau quelque chose d'inquiétant? Parce que quand il dénonce les méfaits de l'amour propre, il s'inscrit dans la tradition des moralistes, sauf que pour lui, et vous l'avez souligné, l'amour propre a une origine historique. Et donc, ce qu'une mauvaise histoire a fait, une meilleure histoire pourrait le corriger. Et on a le sentiment qu'avec Rousseau, la politique devient un espace de transformation illimitée. Ça va très au-delà du gouvernement de soi-même et des autres. Donc il y a, si vous voulez, une puissance utopique dans l'œuvre de Rousseau qu'on peut juger maintenant inquiétante. Sortir de l'amour-propre, d'abord, est-ce que la fusion est si souhaitable que cela? Et on sait ce qu'il en a été des expériences fusionnelles, Jean Starobinski.
Je crois que ce que vous indiquez là est tout à fait central, capital, chez Rousseau. Et on peut en trouver une version assez singulièrement emblématique dans un propos de Diderot au sujet de Rousseau. C'est le propos qu'il dit avoir entendu proférer, enfin prononcé par Rousseau. Il confiait à ses amis, sérieusement ou par plaisanterie, le dessein d'ouvrir une école où il donnerait des leçons aux bouquetières de Paris. Pourquoi est-ce que je cite ce propos que Diderot a cueilli sur la bouche de Rousseau? Ben, c'est que Rousseau a le goût des ensembles, de ce qui se constitue comme une totalité dont les éléments peuvent être simples ou très nombreux, et à suivre l'œuvre de Rousseau, on s'aperçoit que presque tous ses ouvrages ont quelque part un rapport à l'idée d'ensemble. Alors que chez Diderot, nous avons affaire à du discontinu. Ce que Rousseau cherche à mettre en bouquet, en quelque sorte, comme le bouquet qu'il veut enseigner à constituer aux bouquetières de Paris, eh bien, Diderot, lui, est l'homme du coup par coup, du discontinu, l'homme du rebond et non pas de la collection. Songeons que Rousseau écrit, dans le sens où va aussi l'activité de Diderot, un dictionnaire de musique, mais dans quantité de ses textes, on le voit chercher à constituer une totalité. Il va s'agir aussi d'un dictionnaire de botanique. Il va s'agir de la société humaine. Il va s'agir de la famille. Il va s'agir de la République de Genève. Et chaque fois, Rousseau va au fond du problème. Il est l'homme qui explore lui seul, tous les documents nécessaires pour, dans les lettres de la montagne, faire la leçon de politique aux Genevois en faisant appel à tous les documents du passé, les plus importants en tout cas, alors que ses adversaires n'en ont pas la vraie possession. Chaque fois, Rousseau atteint une sorte de maîtrise qu'il tend à rendre manifeste pour lui, fils d'un horloger, se montrer à la hauteur des problèmes de la vie contemporaine. Diderot, en comparaison, c'est l'homme qui énumère, faufile sa pensée, ne craint pas de la glisser dans la pensée des autres quand il les édite, quand il édite l'histoire des deux Indes de l'abbé Raynal, il insère des morceaux de bravoure, mais ils se font dans des ensembles par lesquels ils se laissent dépasser. Tandis que Rousseau a une volonté de maîtrise, de domination, qu'on sent dans chacun de ses ouvrages. Le discours de l'inégalité est un grand schème de philosophie politique. La nouvelle Héloïse, c'est un monde autour d'une histoire d'amour ponctuelle. Saint-Preux fait le tour du monde avec l'amiral Hanson et peut parler de Juan Fernandez à Clarens. Et il n'y a pas un des ouvrages de Rousseau qui ne soit un travail de mise en totalité d'un ensemble d'éléments d'une extrême diversité.
Alors c'est intéressant parce que je disais tout à l'heure que Rousseau, dans son souci de vérité, exposait ses faiblesses, ce qui nous le rendait fraternel, mais vous venez de montrer que c'est aussi l'homme de la maîtrise à travers cette aspiration à la totalité. Et vous venez aussi de me fournir, Jean Starobinski, une transition merveilleuse, puisque vous publiez en même temps que votre livre sur Rousseau, Accuser et séduire, Diderot, un diable de Ramage. Donc, vous avez eu besoin aussi de ce double compagnonnage, et dans ce livre, vous citez une autre réflexion de Diderot sur Rousseau. Elle ne lui est pas directement consacrée, mais tout le monde comprend que c'est de Rousseau qu'il s'agit, puisque la remarque de Diderot, qui se situe dans l'article cynique de l'encyclopédie, porte sur Caton et ceux qui voudraient être comme Caton, ce grand Romain. Alors je cite Diderot, « Je voudrais bien être Caton, mais je crois qu'il m'en coûterait beaucoup, à moi et aux autres, avant que je le fusse devenu. Les fréquents sacrifices que je serais obligé de faire au personnage sublime que j'aurais pris pour modèle me rempliraient d'une bile âcre et caustique qui s'épancherait à chaque instant au dehors. Et c'est là peut-être la raison pour laquelle quelques sages et certains dévots austères sont si sujets à la mauvaise humeur. Ils ressentent sans cesse la contrainte d'un rôle qu'ils se sont imposé et pour lequel la nature ne les a point faits. Et ils s'en prennent aux autres du tourment qu'ils se donnent à eux-mêmes. Cependant, il n'appartient pas à tout le monde de se proposer Caton pour modèle. » Alors, Rousseau aurait-il consacré sa vie au vrai ou à ressembler à une image sublime qui peut-être ne lui ressemblait pas? En tout cas, cette critique de Rousseau par Diderot dessine en creux un portrait de Diderot par lui-même.
J'en sais rien. En effet. Mais ce qui me paraît très, très évident dans le cas de Diderot, c'est qu'il a une pensée d'une extrême vivacité, mais qui ne veut pas ou ne peut pas se livrer dans un ensemble. Il préfère glisser sa pensée dans celle des autres quand il les y dicte. Il travaille en sous-main, et même lorsqu'il invente ses récits, il a en tête des modèles. Certes, Rousseau en avait aussi. Il remontait jusqu'à Lastré, peut-être, qui était parmi les livres laissés par sa mère après sa naissance, puisqu'elle est morte à sa naissance. Mais Diderot, lui, il a toujours quelque chose comme un substrat, une première inspiration qui est une impulsion venue du dehors. La religieuse, impensable sans le roman de Richardson. Le neveu de Rameau, certes, a beaucoup de modèles dans la littérature satirique, et là, Diderot est tout à fait lui-même, mais en même temps, il écoute une autre voix, il donne la parole à un contradicteur avec lequel il ne s'identifie certes pas, mais dont il est quand même un peu le complice. Donc il y a une polyphonie chez Diderot, voilà, qui est tout à fait évidente. Lorsqu'il composera son Jacques le fataliste, ce ne sera plus Richardson le modèle, mais Sterne et Tristram Shandy. De sorte qu'il y a toujours chez Diderot une oreille attentive à la voix des autres et en même temps une série, une mise en série des propos que Diderot veut faire circuler. Rousseau étant bien davantage celui qui organise une totalité intellectuel, un ensemble, un système. Diderot fin de bavarder, et c'est bien autre chose que du bavardage, tandis que Rousseau vise au système jusque dans la composition des parties complexes de la Nouvelle Héloïse. Il est un maître d'œuvre de l'organisation horlogère d'une grande complexité, alors que chez Diderot, ce sont les jambes qui vont de l'avant. On court chez Diderot, on s'en va vers on ne sait quelle direction, et finalement on s'y retrouve toujours, mais il y a ce mouvement qui ne se compose pas en symphonie, mais plutôt dans une ligne mélodique absolument infinie.
Alors oui, c'est intéressant parce que, en effet, on peut dire que Rousseau vise au système jusque dans ses dialogues, alors que les conversations qui parsèment l'œuvre de Diderot sont comme une déconstruction de tout système possible. Et parmi ces conversations, bien sûr, il y a le neveu de Rameau. Alors vous dites, Diderot est en contact avec un autre que lui, il n'empêche. C'est le neveu de Rameau qui dit « Si je savais m'énoncer comme vous, mais j'ai un diable de ramage saugrenu, moitié des gens du monde et des lettres, moitié de la halle. Or, précisément, vous avez intitulé votre livre, Jean Starobinski, Diderot, un diable de ramage. Donc, cette définition, vous la transposez en quelque sorte du neveu de Rameau au philosophe, à Diderot lui-même.
Diderot se dans la voix du neveu de Rameau.
Oui, c'est ça.
Il y a une délégation de la voix chez Diderot qui est merveilleuse et qui fait que, quelquefois, il ne lui est pas difficile, il n'hésite pas à se faufiler dans le texte des autres.
Alors, simplement, il y a un passage du neveu de Rameau qui fait penser à Rousseau, et j'aimerais bien voir où est la différence. Rousseau analyse de toutes les manières possibles l'état de dépendance où est entré l'homme civilisé. Hein ? L'état de dépendance né de la rupture avec l'état de nature. Or, le neveu de Rameau se termine par une réflexion sur la dépendance, puisque le neveu dit ceci, « L'homme nécessiteux ne marche pas comme un autre, il saute, il rampe, il se tortille, il se traîne, il passe sa vie à prendre et à exécuter des positions. » Le philosophe lui demande « Qu'est-ce que des positions ?» Eh bien, il dit « Je prends des positions » où je m'amuse des positions que je vois prendre aux autres, je suis excellent pantomime comme vous en allez juger. Il se met alors à contrefaire l'homme admirateur, l'homme suppliant, l'homme complaisant, autant de positions de la dépendance. Il termine en disant « Voilà ma pantomime, à peu près la même que celle des flatteurs, des courtisans, des valets et des gueux. » À ce moment-là, le philosophe reprend, élargit, il dit au fond, quiconque a besoin d'un autre est indigent et prend une position. Le souverain lui-même, croyez-vous qu'il ne se trouve pas de temps en temps à côté de lui un petit pied, un petit chignon, un petit nez qui lui fasse faire un peu de la pantomime ? Ma foi, conclut le philosophe, ce que vous appelez la pantomime des gueux est le grand branle de la terre. Et c'est une des leçons du neveu de Rameau. Alors, qu'est-ce qu'il faut en tirer ? Est-ce que c'est là, Diderot rejoint Rousseau, ou ne dit-il autre chose, Jean Starobinski ?
Il est vrai que cette page que vous venez de lire, de citer, établit une interdépendance, établit un système de relations. Mais c'est bien caractéristique de Diderot, ce sont les interdépendances, les relations sociales telles qu'elles existent dans la société imparfaite, dans la société qui ne va pas trop bien, qui peut-être demain, c'est la fin du neveu de Rameau, un jour, sera un peu meilleure. Tandis que chez Rousseau, l'image d'une pleine et juste corrélation des consciences et des activités existe, je ne dirais pas comme utopie, mais comme un rêve de fait qui pourrait quand même intervenir dans la société humaine et unir les hommes le soir d'une fête, comme à Genève, à Saint-Gervais, dans un passage fameux de la lettre d'Alembert, où une fête plus vaste, plus large, qui, dans le futur qui s'annonce à la fin du neveu de Rameau, pourrait changer les choses à Paris même.
Mais justement, vous avez donc achevé ces deux livres sur Diderot et sur Rousseau. Au terme de ce double travail, Jean Starobinski, si je vous posais cette question naïve, lequel maintenant vous est le plus proche? Qu'est-ce que vous répondriez?
Difficile à dire. Rousseau, je l'admire de plus en plus parce que je vois à quel point il a travaillé. Ça a été quelqu'un qui a pris au sérieux la tâche d'écrire, la tâche de faire la leçon à sa patrie, aux Genevois, la tâche de dire le vrai dans la situation qui était celle d'un homme tourmenté et en qui un sentiment de culpabilité était certainement à l'œuvre. Avec Diderot, ce qui est précieux, ce n'est peut-être pas le corps des idées formulées, mais l'extraordinaire faculté de rebond et d'allègement que la mise en marche de la pensée lui procure. Ce bonheur, il tarit beaucoup à la fin de sa vie. L'essai sur les règnes de Claude et de Néron n'est pas un chef-d'œuvre. Les derniers ouvrages sont un peu essoufflés, mais reste que Jacques le Fataliste est un livre qu'on pourrait souhaiter mettre entre toutes les mains aujourd'hui pour apprendre à vivre.
Oui, ça je ne peux évidemment qu'approuver. Je crois que si je continuais à enseigner la littérature dans un lycée, je mettrais chaque année Jacques le Fataliste au programme. Mais je terminerai peut-être en citant une page de Diderot, de l'essai sur les règnes de Claude et de Néron, dont vous dites que ce n'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est une très belle page qui donne beaucoup à penser. La contrainte des gouvernements despotiques rétrécit l'esprit sans qu'on s'en aperçoive. Machinalement, on s'interdit une certaine classe d'idées fortes, comme on s'éloigne d'un obstacle qui nous blesserait. Et lorsqu'on s'est accoutumé à cette marche pusillanime et circonspecte, on revient difficilement à une marche audacieuse et franche. J'aime cette page parce que elle peut s'appliquer aussi à d'autres situations, pas celle des gouvernements despotiques, mais d'une opinion pressante et écrasante, d'une société démocratique qui veut justement diriger l'opinion. Donc à chaque fois je vois malgré tout chez Diderot une liberté tout à fait extraordinaire.
Oui, la gaieté de Diderot est insurpassable et on la retrouve même dans les derniers textes qu'il est écrit, les derniers fragments qui nous sont restés. Il y a une façon de considérer le flux de la vie comme quelque chose à quoi on a affaire et sur le bord de quoi on peut rester, mais ce flux de la vie est central.
Jean Starobinski, il me reste à vous remercier et à rappeler le titre des deux livres que vous publiez simultanément aux éditions Gallimard, dans la Bibliothèque des idées, « Accuser et séduire », essai sur Jean-Jacques Rousseau, « Diderot, un diable de Ramage ». Je voudrais aussi citer votre grand livre sur Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, La transparence et l'obstacle, qui est disponible toujours chez Gallimard dans la collection Tell. Vous trouverez les références bibliographiques sur le site réplique franceculture.fr. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut avec la collaboration d'Anne-Catherine Lechard et de Didier Lagarde. À la technique aujourd'hui, François Rivalan. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannet.